Dès l'âge de 12 ans, 11 ans, je sentais que j'avais cette capacité en moi de leader des petits groupes, des petites équipes, des camarades, des copains. À l'université, j'étais président du bureau des étudiants, défendre l'indéfendable, porter la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Et donc, c'est plus qu'une envie, c'est une capacité.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et de l'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute. Je reçois un homme aujourd'hui qui sort un peu des sentiers battus. Il ressemble pas au profil de dirigeant que j'ai l'habitude de recevoir à ce micro. Il est pas dans le Next 40, il est pas dans le SBF 120, encore moins dans la French Tech. Sa cour de récré, lui, c'est le CAC 40. Son terrain de jeu, c'est le monde. Sa start-up, à lui, elle génère 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et il manage aujourd'hui entre 85 et 100 000 salariés. Il est pas dans le bullshit et le fake it until you make it. Il est dans le concret. Parfois dans le dur, il faut lui parler produits, services clients, terroir, digital, chiffres, mais aussi valeurs, partage, apprentissage, respect et confiance dans l'homme. Vous allez l'entendre, il va falloir se lever tôt pour lui retirer la confiance qu'il a en lui, la confiance qu'il a dans l'homme en général, et la confiance qu'il peut avoir dans la vie. C'est un homme profondément enthousiaste et tourné vers l'humain avec lequel je suis heureux de pouvoir m'entretenir pour tenter de capter ces quelques leçons de vie et ces images pleines de saveur et d'inspiration qu'il sait partager comme personne, vous allez voir. Petite parenthèse, avant de commencer cet épisode avec Rami, je voulais vous parler d'une initiative de nos amis de Bouygues Télécom qui ont lancé une série de podcasts qui s'intitule « Les voix de l'inno ». Ils parlent des technos capables de révolutionner les télécoms. Et il y a un épisode que je vous recommande avec Aude Launay et Thomas Fouché qui vont vous parler de l'IA au travers leur programme Lucia et l'IA générative. On fait le point avec eux sur l'IA, la définition, ses applications. Un épisode passionnant que je vous laisse découvrir. Je ferme la parenthèse et je vous laisse avec Rami. Énormément de valeur à en sortir de cet épisode, vous allez voir. Salut Rami.
Bonjour Geoffrey.
Merci de nous accorder un peu de ton précieux temps, qui est un petit peu plus disponible en ce moment, et de passer au micro d'Innovation Leaders. Je suis content de t'avoir et de passer ce moment avec toi parce qu'on a pas mal de choses à aborder, ton parcours, tes apprentissages, tes succès, tes échecs aussi, il y en a, ta philosophie de vie que j'adore et que j'ai hâte de pouvoir partager au plus grand nombre. Toi, t'as un peu plus de 50 ans, tu es marié, tu es père de 3 enfants, et j'aimerais qu'on parle de ton parcours avant Carrefour, le Rami avant 94. Tu as grandi dans quel univers et au sein de quelle culture ?
Alors, moi, je suis fait de plusieurs cultures. Donc, déjà, je suis né dans une famille pluriculturelle au Liban. J'ai vécu au Liban pendant une période qui n'était pas la plus simple pour le pays et pour la région, donc une période de guerre. Et mon enfance a été marquée par plusieurs contraintes et difficultés, dont, par exemple, la disparition de mon école. Quand j'étais en place de cinquième, un jour, je porte mon cartable, je vais à l'école comme tout le monde. Et là, je tombe, en fait, je vois mon école qui était, en fait, par terre, en ruine, à cause des bombardements la veille. Et donc, je me rappelle avoir discuté avec mes collègues, j'avais à peine 12 ans, et mes camarades de classe, ils me disent, bon, alors maintenant, il n'y a plus d'école, donc il n'y a plus, voilà. Et ce jour-là, comme un adulte, j'ai réfléchi comme quelqu'un de très conscient. J'ai réfléchi, je dis non. Il faut absolument que je trouve un moyen de poursuivre mes études. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et donc, jusqu'à maintenant, je veux retourner voir ce garçon de 12 ans, lui dire merci. Merci pour cette voix, pour cette conscience à cet âge-là. Et qui m'a permis, à l'âge de 18 ans, d'avoir de très bonnes notes aux examens officiels, ce qui m'a permis d'obtenir une bourse pour venir en France, où un jour, on a reçu un coup de fil, mes parents, en disant que votre enfant, donc, il a de bonnes notes, donc il est deuxième au niveau dans les examens, donc il a le droit à postuler à une bourse pour venir en France. Donc, j'ai pris la décision immédiatement d'accepter cette opportunité. Et donc voilà, je me retrouve à Compiègne, dans le nord de Paris. Et c'est cette ville que je considère comme ma ville natale en France, dans laquelle je me ressource, je me retrouve, parce que c'est à Compiègne que j'ai découvert le monde de nouveau, l'autre vie. C'est à Compiègne que j'ai fait mes études, c'est à Compiègne que je me suis formé, donc à l'informatique et aussi au commerce. Et c'est à Compiègne que j'ai commencé mon premier stage chez Carrefour.
Et ça, c'est l'histoire, moi, que je trouve assez incroyable. Enfin, en tout cas, une belle histoire. Tu postules un stage chez Carrefour, qui est vraiment la boutique, c'est le supermarché au coin de la rue. Enfin, c'était à côté de l'école, à côté de chez toi. On est en 94, si je ne dis pas de bêtises. Tu es pris en stage, un stage terrain, alors que tu es ingénieur informatique. Et 28 ans après, le petit stagiaire devient DG de la filiale France de Carrefour, qui est le premier marché. Histoire assez dingue, non?
Alors, ça, c'est... Ce sont les valeurs de cette belle boîte française qui est Carrefour. Quand j'ai postulé à mon stage, donc effectivement à Compiègne, dans le village de Venette, c'était un stage de 5 mois de fin d'études. Je me rappelle mon maître de stage, il m'a dit on a un problème avec la gestion des stocks. Il y a beaucoup de stocks dans les réserves, il y a beaucoup de ruptures en rayon. Il faut nous aider à régler ça. Et il m'a donné un cahier avec des feuilles A3 qu'on appelle le cadencier à l'époque. Et il fallait, produit par produit, avec un crayon et une gomme, passer la commande en fonction des ventes de la veille, des ventes prévisibles le lendemain, ce qu'on pourrait vendre le jour J. Et donc, il fallait faire un calcul mathématique,
manuel,
produit
déjà,
par
presque,
produit oui. Et manuel, avec la gomme et le crayon. Et donc, le premier jour, j'ai mis 3 heures pour passer ma commande. Le lendemain, j'ai mis un peu moins de 3 heures. Donc, je demande à mes camarades, je dis, j'ai mis 3 heures pour passer la commande, est-ce que c'est normal ? Et mon collègue, il me dit, mais moi, ça fait 8 ans que je fais ça. Je dis, mais je ne vais pas passer 5 mois à faire ça. Donc, ayant quelques notions de commerce, d'informatique et de comptabilité, donc, j'ai travaillé sur Lotus 1, 2, 3 à l'époque, ça s'appelait avant Excel, et j'ai créé un algorithme de calcul qui permet d'automatiser la proposition de commande. Et donc, du jour au lendemain, on est passé de 3 heures à moins de 3 secondes.
Et je crois que c'est un peu ça qui t'a permis de te faire remarquer dans ce groupe-là, et ça a été un accélérateur
de carrière. C'est l'élément déclencheur qui m'a permis, un, de me faire remarquer, mais par les plus hautes autorités de Carrefour. C'est ça, c'est-à-dire le directeur général de Carrefour France qui était venu dans le magasin à l'époque, le président de Carrefour qui est venu dans le magasin à l'époque. Donc, c'est très rare quand même pour un stagiaire de se faire remarquer de cette manière-là, non seulement par un directeur de magasin extrêmement bienveillant et compétent, mais aussi par toute la cour royale de la société de l'époque. Donc c'est vrai que ça pousse des ailes et ça crée une image au sein de la société qui peut faciliter plein d'autres opportunités par la suite.
Ouais, et ce qui est amusant, c'est que je crois que 20 ans après, en Argentine, tu retrouves des problématiques de gestion de stock et les informaticiens du groupe t'amènent ces mêmes sujets de gestion et de commande, et tu retrouves des problématiques que tu avais abordées 20 ans après, limite les lignes de code dans lesquelles tu avais déjà mis les mains, quoi.
Je me demande si aussi ma mission à venir maintenant, puisque je change d'univers, je me demande aussi si ça ne sera pas aussi le cas là où je vais atterrir à la fin du mois. Je me rappelle quand je suis arrivé à Taïwan, on avait un problème aussi similaire par rapport au stock, etc. Bon, quand on dit grande distribution, on parle du stock parce que c'est le cash, c'est le nerf de la guerre. Donc, à chaque fois, il y a ça. Et je me rappelle avoir posé la question à ma directrice de la supply chain à Taïwan. Je lui ai dit, montrez-moi la formule de calcul pour voir si ces problèmes concrets que nous avons dans les magasins, est-ce qu'ils ne viendraient pas d'un problème en amont qui s'appelle la formule de calcul, que personne ne regarde en fait, personne ne vérifie le moteur tous les jours. Elle m'a dit, écoutez, vous êtes sûr que vous voulez voir...
Ça risque d'être un peu compliqué pour vous.
C'est un peu compliqué quand même l'algorithme. J'ai dit, ne vous inquiétez pas, apportez-moi l'algorithme. Et quand elle me l'a apporté, j'avais une larme aux yeux, parce que c'était mon algorithme, donc 15 ans plus tôt. Donc effectivement, c'est une question en fait que je traite en permanence, et j'ai eu la chance et cette extraordinaire opportunité d'avoir pu automatiser donc les commandes chez Carrefour. Je parlais avec quelques distributeurs britanniques, et ils ont automatisé les commandes en 2006. Chez Carrefour, on l'a fait en 95. Okay. En 1995.
Donc même si ça paraissait ancien, en fait, c'est, enfin, tardif, c'était hyper tôt par rapport aux concurrents.
Exactement.
Ok. Et ça montre aussi, c'est une belle illustration de la capacité à challenger une situation qui peut paraître hyper complexe à challenger. Quand t'es un stagiaire, t'oses pas remettre en cause les process et quelque chose établi depuis des années. Et en fait, visiblement, même dans un grand groupe, on peut envisager de changer quelque chose et d'avoir un impact sur un process.
Je me suis appuyé sur deux valeurs dans lesquelles je crois foncièrement. La première, pas de fatalité. Donc, chaque problème a deux solutions. Et moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, surtout les plus jeunes, pas de fatalité. C'est jamais trop tard, c'est jamais perdu. Et l'échec est le début de la réussite. Et ça, c'est hyper important dans la vie. Et la deuxième valeur dans laquelle je crois, c'est que je dois apporter une valeur ajoutée. Que je sois stagiaire, que je sois directeur général, que je sois éboueur, ou que je sois maître un chef étoilé, je dois apporter une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, effectivement, elle est à la taille de la personne et de la responsabilité qui est celle de chacun. Mais le fait de sortir de chez soi le matin en ayant donc comme objectif d'apporter une valeur ajoutée, ça c'est le médecin qui sort de chez lui, j'ai dit aujourd'hui je vais soigner des patients, je vais sauver des vies. Et donc l'avocat qui dit moi aujourd'hui je vais faire mon travail correctement. Le distributeur qui dit moi je vais garantir les bons produits au bon prix, la bonne qualité. Donc le fait de vouloir ce besoin d'apporter une valeur ajoutée, une brique, effectivement, à ce bon monde, eh bien, ça aussi, c'est l'une de mes valeurs qui m'ont permis, en tant que stagiaire, alors que plein de gens auraient pu dire, mais qu'est-ce que moi je peux faire dans un groupe
c'est
de 400 000 personnes. J'exécute, on me donne le papier, je m'occupe du papier, point final. Et donc, voilà deux valeurs. Et puis, une troisième valeur qui est venue par la suite, je ne l'avais pas jeune, mais ça c'est venu avec l'expérience, qui s'appelle la disruption. Donc n'acceptez pas le statu quo, tout le temps interrogez-vous, est-ce que c'est la bonne manière de le faire? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire les choses? Donc la disruption, c'est quelque chose d'extrêmement important. La disruption, pour moi, c'est ce joueur de foot qui a le ballon entre les pieds et puis il faut absolument qu'il marque le but. Et alors que faire exactement comme on a fait, c'est du rugby, c'est toujours du contact, toujours du choc. Et c'est vrai que la disruption, ça permet de gagner du temps, ça permet de gagner énormément en énergie.
Et de se faire remarquer et de se différencier en interne et vis-à-vis de tes concurrents. On regardera la partie valeur et philosophie, presque philosophie de vie tout à l'heure encore. En restant sur Carrefour, pas simple de synthétiser 28 années, mais quelles ont été les grandes étapes de ton parcours au sein de ce groupe?
La première grande étape, j'en ai parlé. La deuxième grande étape, c'est qu'en 2005, j'ai postulé un poste de directeur de magasin en France. Donc, j'estimais que j'étais capable de diriger un magasin 10 ans après, donc d'expérience de chez Carrefour. Et j'ai passé des tests en interne avec des directeurs régionaux qui m'ont donné un avis très favorable. Et puis, dans le système, il fallait passer une évaluation dans un cabinet d'assessment, d'évaluation. Et je me suis planté dans cette évaluation. J'ai très mal fait. Et puis, effectivement, le résultat de cet assessment, c'était défavorable. Et la dame, elle me dit, écoutez, monsieur Bétier, je suis désolé de vous apprendre que jamais vous ne serez directeur. J'ai dit chez Carrefour. Elle m'a dit non, pas que chez Carrefour, mais n'importe où.
Vous n'êtes pas fait pour ça.
Vous n'êtes pas fait pour être directeur. Et c'est vrai que ce moment-là était quand même un game changer dans ma tête. Et ça m'a rappelé, quand j'avais 12 ans, ce qui s'est passé dans ma tête. On voulait me dire indirectement que non, toi, tu peux pas étudier, tu peux pas avoir de bonnes notes. Voilà, même si j'étais pas celui qui était, visé. Et là, j'étais encore plus visé. Et là, je me suis dit non, non plus. On va pas m'abattre comme ça. Et je vais apprendre de mes échecs, je vais apprendre de mes erreurs.
et je vais apprendre. Effectivement, c'était juste une bouffée d'énergie que ça m'a donné pour aller en Pologne et commencer un parcours d'expatriation où je me suis prouvé à moi-même et j'ai prouvé à ceux qui m'aiment que non, je suis capable d'être directeur et pas que.
Et tu vas pas avoir un titre de pacotille, mais un titre où tu auras vraiment, eu des challenges à relever assez costauds. On reparlera tout à l'heure des pays dans lesquels tu es allé. Je pense notamment à l'Argentine, qui n'était pas un sujet facile, ni l'Espagne quand on est en plein Covid. Donc des challenges, tu en as vécu. Et après, tu es arrivé, finalement, après avoir eu un parcours international assez important, sur le marché français, qui est le marché phare du groupe. Quel a été le fil rouge de ta carrière? Toi, t'as été du genre à, et je sais pas d'ailleurs si on peut le faire dans un groupe comme ça, est-ce que tu drives et tu choisis tes combats, ou finalement, t'es repéré par la hiérarchie qui te fait, qui te confie des challenges, et finalement, c'est pas toi qui as le maître mot de ta carrière?
Les deux. Donc c'est les deux, c'est-à-dire, toi tu as une vision, tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu ne veux pas faire, et après, ça a beau être un très grand groupe, mais c'est quand même beaucoup de repérage. Donc, il y a du processus, des dossiers à la RH, etc. Je ne sais pas si quelqu'un les a lus, ces dossiers, mais en tout cas,
En
28 ans de carrière, à chaque fois, j'ai eu le droit à la marche suivante grâce à un repérage, pour le dire. Maintenant, en 2013, j'étais en Turquie et j'ai eu deux propositions. Soit je devenais directeur commercial en Turquie, soit je partais en Chine, c'est-à-dire l'un des top 4 pays du groupe Carrefour, en tant que directeur supply chain. Et là, j'avais les deux offres en même temps. Et l'offre supply chain en Chine m'a été faite par le plus haut dirigeant de la société. Alors que le poste commercial m'a été fait par le patron de pays. Donc moi, j'ai choisi le poste du directeur commercial parce que je savais pertinemment qu'un poste supply chain à cette époque-là m'amenait vers une expertise supply chain, alors que le poste commercial était en fait juste un poste de préparation pour être patron de pays. Donc moi, je voulais effectivement, je savais que j'avais les compétences pour être patron de pays, voire plus, et donc je savais ce que je voulais choisir. Et donc, dans le choix, je savais. Mais le repérage est extrêmement important. Et un message à ceux qui nous écoutent, il faut super bien travailler et il faut aussi travailler son image interne dans la société, mais aussi externe, parce que le marketing et la marque personnelle, elle est très importante.
Quelle a été l'ambition de cette carrière et les drivers de ta carrière? Tu avais une envie de manager des équipes, tu avais une envie de gérer un P&L plus gros. Quelles ont été les motivations de ton évolution?
Sincèrement, ce n'est pas une envie. C'est juste un sentiment de capacité. Donc, dès l'âge de 12 ans, 11 ans, je sentais que j'avais cette capacité en moi de leader des petits groupes, des petites équipes, des camarades, des copains. À l'université, j'étais président du bureau des étudiants. Défendre l'indéfendable, porter la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Et donc, c'est plus qu'une envie, c'est une capacité.
Une mission, quoi, un peu de prendre des responsabilités et de jouer un rôle.
C'est vraiment pas une ambition, c'est vraiment un sentiment d'avoir la capacité de faire une peinture. Alors moi, je peins pas, mais j'ai toujours senti que les problèmes qui peuvent paraître extrêmement complexes pour les autres, je les voyais extrêmement simples. Et quand j'essayais d'expliquer cela à mes collègues, à des hiérarchies, ils me trouvaient trop simple, et donc trop simpliste. Et donc c'est pour cela que ça n'a pas toujours été facile pour moi. Et quand il n'y avait plus de solution, on m'appelait pour dire « Ok, allez, on va voir ce qu'il peut faire ». On me donnait ce problème extrêmement complexe, et en quelques temps, très 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 vite, eh bien, je rendais le problème hyper simple, parce que je pense avoir cette capacité, ce don de simplifier les choses et de leader des équipes. Donc, c'est plus qu'une ambition personnelle, très sincèrement. C'est plus qu'une réalisation. Voilà. Et surtout quand il y a un objectif derrière. Quand on me dit en Argentine, il y a 16 000 personnes qui pourraient perdre leur job si on ferme et si on ne retrouve pas la profitabilité,
Et moi, ayant ce sentiment, cette confiance en moi de l'idée des équipes, je dis, ça, c'est pour moi. Et je me rappelle, c'était 26 heures de vol entre Taïwan et Buenos Aires. Et je me rappelle, j'ai des amis de Carrefour qui m'ont contacté, quelques dirigeants. Ils m'ont dit, mais il y en a un qui m'a dit, mais pourquoi tu veux aller en Argentine? Ça n'apporte rien à ta carrière.
Au contraire, c'est dangereux.
C'est dangereux, parce que là, le parcours de Rémy Bétier, il s'arrêtera là. Et tout le monde dira, OK, bon, c'est un martyr de la grande distribution. Mais c'est quand même, la marche, elle t'apporte rien au niveau de ta carrière. Mais c'est dur. Je dis, mais je ne le fais pas pour la carrière. Je le fais parce qu'il y a 16 000 personnes que je dois sauver. Et je sais que je peux les sauver.
Et apparemment, tu y es arrivé. Quand on voit le contexte argentin et par les pays dans lesquels tu es passé, où tu as redressé des situations financières, en tout cas en l'occurrence en Argentine, catastrophiques, est-ce qu'il y a une méthode, Rami, qui consiste à communiquer, à fédérer, à soulever un peu les équipes? Est-ce que tu considères qu'il y a une méthode, Rami, qui consiste à être capable de passer d'une situation dans le rouge à une situation dans le vert?
Il y a une méthode que je ne peux pas qualifier de Rami, parce que moi, je l'ai appris à gauche, à droite, des livres, de l'histoire, voilà. J'aime beaucoup l'histoire, donc voilà.
Tu t'inspires de certains éléments.
Je m'inspire, effectivement, voilà. Donc, ce n'est pas ma méthode. Moi, c'est juste une collection de quelques pratiques, quelques valeurs que je mets en œuvre. Maintenant, peut-être ce qui me différencie, c'est le courage managérial qui me permet de dire « c'est comme ça ». Et c'est cette différence-là que des fois, on ne trouve pas chez les dirigeants. C'est-à-dire, moi, quand je suis arrivé en Argentine, le pays perdait 90 millions d'euros. Et donc, je parlais avec les dirigeants, les cadres supérieurs qu'on appelait « above the store ». J'ai « pourquoi on perd de l'argent ?» Ils m'ont dit « c'est à cause de l'inflation, la corruption, le foot, la taille du pays. » Mais jamais à cause de nous, quoi. Donc, que des facteurs externes. On ne nous a pas laissé faire. Le prédécesseur est mauvais.
Que des facteurs externes.
Voilà, que des facteurs externes et que de la critique. Et moi, je fais quoi? Donc, j'ai un doigt qui dit « c'est la faute de l'autre » et j'ai trois doigts qui disent « c'est ma faute à moi ». Mais qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Et donc, et quand on voulait accuser l'interne, on accusait le pauvre employé qui a beaucoup d'impact, mais sincèrement. Avant d'accuser cet employé, et moi, le dirigeant, qu'est-ce que je fais? Parce que je suis responsable. Et le mot responsable vient d'un verbe latin, respondum, donc répondre. Donc, quand je suis responsable, je dois répondre. Et la réponse, ce n'est pas en critiquant, en accusant les facteurs externes et les employés de base. Ce n'est pas comme ça. Moi, quand quelqu'un me dit « Oui, mais mon équipe, mais les magasins, ils ne comprennent rien. Oui, mais les caissiers, ils ne comprennent rien. » Non, s'il y en a un qui n'a rien compris, c'est moi et toi. Parce que nous sommes responsables. Donc, en fait, tu vois, c'est ce courage managérial de pouvoir le dire de la manière la plus bienveillante possible,
mais
à un cadre supérieur,
possible.
Que tu es responsable. Si tu as accepté de monter en responsabilité, eh bien, c'est parce que tu as accepté de donner de plus de réponses. Eh bien, maintenant, tu dois donner plus de réponses. Si ta réponse est de me dire « je ne peux pas, c'est difficile », bah merci, tu es en train de me dire que tu es incapable d'être responsable. Donc, tu vas bouger à droite et tu vas laisser ceux qui sont capables de prendre le poste. Donc, en fait, c'est à partir de là, il y a des responsables qui disent « OK, d'accord, donc je prends mes responsabilités et je vais apporter des réponses. » Puis, il y en a certains, effectivement, qui tombent en cours de route et puis qui reconnaissent ne pas avoir les compétences pour diriger des équipes. Et donc, des gens qui considéraient que le poste de responsabilité est un poste d'honneur au lieu que ce soit un poste de donneur. Moi, pour moi, le poste de responsabilité, c'est un poste de donneur. Je donne. Et ce n'est plus qu'un poste d'honneur. Après, l'honneur viendra. Il viendra. Mais ce n'est pas, c'est pas parce que j'ai les galons que ça y est, tout le monde me doit le salut tous les jours. Non, les gens me devront le salut le jour où moi, j'aurai fait mes preuves, effectivement, pour les gens.
Et je les aurai emmenés au succès. On va revenir sur tout un tas de choses que tu as dit. Avant ça... Ça m'intéresse de comprendre comment on se transforme à titre perso entre le stagiaire que tu étais et l'homme que tu es devenu après ces années. Tu parlais de communication, de marketing personnel, je ne sais pas si ça a été des leviers, mais comment on se transforme pour devenir le patron que tu as été à titre personnel, en termes d'apprentissage, en termes d'expérience, en termes de méthodologie? Par quoi tu es passé qui t'a permis de te challenger à titre personnel et d'arriver aux fonctions que t'as eues?
Je me rappelle encore, j'étais stagiaire, et puis on parlait avec les chefs de rayon, quelques copains, etc. Et puis, il y en a un qui me dit, « Toi, tu vas aller loin. » Et puis un autre qui me dit, « Tu vas t'arrêter à quel niveau chez Carrefour ? Tu veux rester chez Carrefour ?» Je dis, « Oui, pourquoi pas ?» Il me dit, « Tu vas t'arrêter à quel niveau ? Directeur régional ?» J'ai dit, « Qu'est-ce qu'il y a au-dessus ?» Parce qu'en fait, à l'époque, pour moi, stagiaire, directeur régional, c'était vraiment le...
le Graal.
Le Graal. Je dis, est-ce qu'il y a des postes au-dessus? Il m'a dit, oui, il y en a plein. Je dis, moi, je ne connais pas encore mon plafond. Donc, je ne sais pas. Donc, je ne planifie pas que je vais atteindre tel objectif, tel poste, à tel âge ou tel temps. Je n'ai pas du tout, en fait, la pression du temps. Je n'ai pas la pression du temps. J'ai la pression de faire les choses correctement, comme si c'était mon argent. Après, ça vient. Si ça vient, ça viendra. Si ça vient pas, c'est pas grave.
Mais t'as dû te développer à titre personnel.
Et donc, il y a une remise en question permanente. Donc, il y a cette volonté d'apprendre. Donc, moi, j'ai jamais quitté l'école. La dernière fois où j'étais au banc de l'école...
Tu cumules pas mal de MBA, je crois.
Voilà. La dernière fois où j'étais au banc de l'école, c'était en juin dernier à London Business School. La fois d'avant, c'était à Harvard l'année dernière. La fois d'avant, c'était à Lausanne. La fois d'avant, c'était à Silicon Valley. Donc, la fois d'avant, j'étais au Japon. Donc, l'apprentissage permanent. Je n'ai jamais considéré que ça y est, j'ai la science infuse, maintenant, c'est réglé. Deuxièmement, la lecture. Troisièmement, la remise en question, en disant, ça, c'est mauvais, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Avoir un alignement avec moi-même pour que je puisse préserver mon énergie. Et aussi, l'apprentissage s'accompagne d'une dose d'humilité. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, plus on monte en savoir, parce que le savoir, c'est le pouvoir, c'est la supériorité. Et la supériorité nous fait tomber dans l'arrogance. Et l'arrogance, c'est le début de la fin. Donc, justement, pour avoir les bienfaits du savoir, sans avoir l'effet inverse, donc, je veux le savoir, je veux l'apprentissage, mais avec une dose d'humilité en face. Cette dose d'humilité, je peux l'avoir en vivant de manière plus proche avec le terrain. Tu as parlé du terrain tout à l'heure. Une fois, j'étais... donc, on a des comités exécutifs avec les dirigeants, etc. Donc, moi, je suis directeur de pays. Et donc, j'ai mes N-1, ce qu'on appelle le COMEX. Donc, j'ai dit au COMEX, je dis, on ne va pas faire des réunions dans un bureau. Le matin, on va commencer les réunions par une heure de vivre ma vie. Et donc, ce jour-là, on est parti dans un magasin, aux Ulysses, dans le 91. Et je me suis adressé à l'équipe de caisse. J'ai dit aux hôtesses et hôtes de caisse, j'ai dit, vous avez la pause pendant 40 minutes. C'est les membres du COMEX qui allons ouvrir maintenant les caisses et qui allons accueillir les clients. Donc, c'est la pause pour tout le monde. Donc là, elles étaient super contentes. Et donc, moi, j'ai demandé à mon équipe, je dis, chacun va prendre une caisse. On a porté le gilet et voilà. Donc, en fait, c'est... Un apprentissage s'accompagne toujours d'une proximité du terrain qui va nous rappeler l'humilité. Parce que l'humilité du dirigeant va l'éloigner de l'arrogance. Et là, il peut préserver son énergie de la manière la plus objective possible. Parce que la fin des empires, dans toute l'histoire de l'humanité, c'était à cause de l'arrogance. Okay. Il y a un livre qui dit « How the Almighty Fall », comment les colossaux y tombent. Eh ben, c'est l'arrogance. Et donc, on ne le voit pas au début, c'est un vice, une maladie qui pousse dans les sociétés ou dans les gens, et voilà, dire, tu sais, je deviens intouchable, je deviens machin, attention à cela, il faut vraiment rester aligné avec les valeurs de l'apprentissage et l'humilité pour justement préserver son énergie et l'objectivité de ses actions.
Ok, et justement, ça me fait penser... Enfin, cette partie valeur, elle est omniprésente chez toi. Je pense, toi, t'es très porté sur le management, sur la formation en règle générale. T'as fondé notamment l'école des leaders au sein de Carrefour. C'est l'entité de formation du management. Quelles devraient être les bonnes valeurs, t'en as peut-être répondu juste avant, mais les valeurs incarnées par un bon manager?
Un bon manager, c'est un manager qui écoute. Moi, je considère qu'on peut être tous bons, mais on sait quoi? On sait 15%, 10% de la réalité. Notre cerveau nous permet d'en connaître combien sur notre entreprise, sur la situation, etc. 5-10%. On a un cerveau quand même finalement limité, même si on est les plus intelligents. Je pense qu'on a besoin d'écouter. Je pense qu'on a besoin de faire l'éponge. Je pense qu'on a besoin de sortir de sa zone de confort. Et un manager, d'abord, la première qualité du manager, c'est donc d'écouter. Écouter pour apprendre. La deuxième qualité, c'est le courage managérial. Je pense que nos équipes, les clients, les actionnaires, l'environnement, les institutions, attendent des managers des positions claires et objectives. Et pour cela, il faut avoir la nuance, mais du courage managérial. C'est très important, le courage managérial. Un manager doit avoir aussi une éthique indiscutable par rapport aux standards de la société et de l'entreprise. Un manager doit bénéficier d'une qualité de bienveillance. Une dose d'exigence, deux doses de bienveillance. Parce que les équipes, c'est comme dans une salle de musculation. Si je veux me muscler le bras, c'est pas en un seul geste que je vais y arriver. Il faut répéter, répéter, répéter. Et des fois, on perd espoir. Mais à force de répéter, finalement, on y arrive. Et donc, en fait, c'est cette tolérance, cette répétition, cette bienveillance qui nous permet d'embarquer un maximum d'équipes. J'ai jamais aimé prendre un poste et virer tous les managers présents. Moi, j'aime prendre les mêmes équipes, aller chercher le meilleur de chacun. Parce que je suis convaincu qu'au fond de chacun, il y a un meilleur. Il faut trouver cette flamme, il faut l'allumer. Et ça, il faut travailler ça. Et je considère qu'un manager doit avoir aussi cette qualité de disruption. Il faut voir les choses différemment. Est-ce que je vais prendre le même problème de la même manière ou est-ce que je vais sortir et le regarder d'un autre angle? Donc, le manager, il a cette responsabilité. Et la question de l'école des leaders, c'est parti de ces caractéristiques où il y a une hôtesse de caisse en Argentine, elle me dit, j'ai un bac plus 2, je suis hôtesse de caisse, comment je fais pour évoluer dans la société? Je lui ai dit, votre manager va vous repérer, et puis il va vous aider à progresser. Ben, dit, nous, on est 130 caissières. Mon manager, le temps de nous repérer, il aura déjà changé de magasin. Et ça m'a fait penser à inverser la pyramide et dire, au lieu que ce soit le manager qui va repérer le collaborateur, j'ai souhaité à ce que le collaborateur s'auto-repère lui-même ou elle-même. Et donc, je lève la main, je dis, je pense avoir les compétences d'aller au poste suivant. Très bien, puisque tu le penses, eh bien, viens le prouver dans l'école des leaders. Tu vas apprendre pendant 8 mois des choses, tu vas passer un examen comme tout le monde. Si tu n'as pas une première chance d'aller dans une école, si tu ne viens pas d'une famille pour laquelle l'apprentissage est une grande valeur, si tu n'avais pas les moyens pour avoir la vie que d'autres peuvent avoir, eh bien, voilà l'école de la deuxième chance. Cette école de 8 mois co-signée par une université locale. Et donc, ça va te permettre, effectivement, d'apprendre et de passer au poste suivant. Donc, on a inversé un peu la pyramide. Au lieu que ce soit le manager qui va repérer le collaborateur, c'est le collaborateur qui va s'auto-repérer. Et puis après, il va faire ses preuves pendant 6-8 mois. Cette école nous a permis de découvrir quoi? Plus de 50% des élèves de cette école sont issus des quartiers les plus populaires.
Là, tu fais une transition avec la question que je voulais aborder, parce que la diversité, on n'a pas mentionné jusqu'ici, mais c'est un élément important pour toi, à titre perso, et toi dans ta carrière. Comment tu l'as intégré, cette diversité, dans ton métier?
Parce
et en quoi
que
c'est important?
Moi, je veux m'appuyer sur tout le monde. Je pense que la diversité, ce n'est pas juste une question de sympathie et de concorde sociétale. Pour moi, la diversité, c'est un élément majeur de la performance de l'entreprise, ou même de la société en général. Parce que quand on a des expériences diverses, tu vas apporter ton expérience, je vais apporter la mienne, l'autre va apporter la sienne. Et la diversité, ce n'est pas simplement l'origine, immigré ou pas, ou couleur de la peau ou pas. Il y a la diversité de genre, il y a la diversité de l'âge, il y a la diversité de la région. Moi, dans mes équipes, j'ai embauché quelqu'un qui a une expérience familiale en tant que fermier, en tant qu'agriculteur. Ben, il apportait des choses que les autres ne savaient pas. Donc, plus l'équipe est diverse, plus on se donne les moyens pour réussir et donc améliorer la performance de l'entreprise. Donc, la diversité, ça nous permet de gagner énormément de temps.
Et là, il y a un autre aspect qui est assez lié, c'est... Alors, pas forcément lié avec la diversité, mais sur le choix de la l'ADN des gens qui t'ont entouré et à qui tu souhaites donner leur chance, il y a l'aspect méritocratie. C'est pas forcément une question de diplôme, c'est pas forcément une question d'être bien né, c'est une question de mériter son job et son évolution. Quelle place a eu la méritocratie dans ton management, toi ?
La méritocratie, pour moi, a toute la place. C'est au mérite. C'est au mérite parce que si je suis là, c'est grâce aussi à la méritocratie, hein, il faut le dire. Moi, j'ai de beaux diplômes, j'en ai plein, mais c'est venu au fur et à mesure. Je suis pas né avec des diplômes. Hein. Moi, le travail, le télétravail, je l'ai connu entre l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, où j'avais pas une école fixe, une école assignée. Donc, non, la méritocratie, pour moi, a toute la place. Mais c'est au-delà aussi de la méritocratie. C'est de mettre chacun devant ses propres responsabilités. Tu veux progresser ? Progresse. Et c'est pour ça, l'école des leaders, je l'ai appelée, je lui ai donné un autre nom interne, l'école des 100 CV. Donc, si tu veux postuler à cette école, on ne va pas te demander ton CV. Donc, ton CV, ne sera pas utilisé, il ne sera pas lu, il ne sera pas traité. Il y a une dame de 57 ans, elle a pris le microphone un jour, elle m'a dit, voilà, je voudrais remercier les personnes qui ont créé l'école des leaders, parce que jamais j'aurais pensé qu'à l'âge de 57 ans, je pouvais passer d'une boulangère à cadre, à un manager. Parce qu'elle pensait qu'à partir de 55 ans, c'était fini. Alors que non, ce n'est pas fini. C'est pas fini. Dans certains pays...
Ça dépend de toi,
en fait. Dans certains pays, on est candidat aux élections présidentielles à 80 ans, à 75 ans. Donc non, c'est pas fini. Donc, c'est cette diversité, cette méritocratie que tu décris, mais aussi cette passion d'aller chercher chez chacun le meilleur.
Bon, et le meilleur, ça passe... tout à l'heure, tu faisais une petite parenthèse sur le fait que tu n'étais pas peintre et que tu ne savais pas peindre. Mais en revanche, tu sais repérer peut-être le potentiel et tu as une allusion à Picasso qui est assez marrante et qui est liée à ça. Tu peux me donner cette histoire de liée à Picasso et au fait qu'on doit faire attention à ne pas rater le Picasso de ses équipes ?
Alors, ça veut dire que tu es bien informé avant de faire cet entretien. Alors, Picasso, quand est-ce que j'ai utilisé cette métaphore ? Picasso, c'est quelqu'un qui est donc un excellent peintre, mais de son vivant, malheureusement, il n'a pas vécu riche, il a vécu très pauvre, et il a été reconnu après sa disparition. Et donc moi, je dis aux équipes qui recrutent des gens, je dis attention à Picasso. Donc combien de personnes ont lu et ont vu les peintures de Picasso, mais ils n'ont pas réussi à les détecter, à les déchiffrer. Ça a été déchiffré après. Donc, je dis peut-être que dans les CV que vous refusez, de manière automatique, plus ou moins, ou parce que il me semble, j'ai l'impression qu'il est bon, j'ai l'impression qu'il n'est pas bon, des fois on refuse ou on accepte un CV sur juste un sentiment qui est complètement subjectif. Moi, je dis attention. Peut-être que dans la ramette de CV qu'on est en train de refuser, peut-être qu'il y a un Picasso, et c'est peut-être ce Picasso qui va sauver l'entreprise un jour. Donc peut-être un stagiaire, peut-être un quelqu'un, peut-être un caissier, peut-être, mais qui va sauver la boîte un jour. Donc je dis attention à ce Picasso, ne tombons pas dans l'erreur de refuser un Picasso qui serait...
Posez-vous deux fois la question.
Exactement, clairement. Exactement.
Autre chose sur laquelle je voulais revenir, tu parlais tout à l'heure de ta capacité à simplifier des problèmes. Ça, j'ai l'impression, pour avoir discuté avec beaucoup d'entrepreneurs, parfois sur des projets complexes, c'est une des grandes qualités des dirigeants de simplifier des problématiques, simplifier des organisations et de simplifier la lecture des choses. C'est quoi la méthodologie quand on est face à quelque chose qu'on a l'impression de ne pas maîtriser pour finalement arriver à maîtriser la problématique qu'on a ?
C'est très simple. Moi, quand je suis sur une route et je trouve devant moi un rocher, je ne peux pas bouger le rocher avec mes bras. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas la capacité et les muscles suffisamment... développé pour bouger un rocher. Le rocher, c'est un très gros problème complexe. Qu'est-ce que je fais ? Mais je dois passer par là. Je n'ai pas le choix, c'est ma route. Donc je prends mon marteau et je divise le rocher en pierres. Et là, la pierre, je peux la déplacer. Et si je ne peux pas déplacer la pierre, je divise la pierre en cailloux. Et le caillou, je peux le déplacer. Et si je ne peux pas déplacer le caillou parce que je n'ai pas un poste à responsabilité énorme, et donc je divise le caillou en poussière et je marche dessus. Donc en fait, tout au long de ma carrière, j'ai remarqué que certains dirigeants ou personnalités de tout secteur ont tendance à rendre le caillou plus important un rocher. Moi, je pense qu'il faut faire l'inverse. Il faut prendre le rocher et le diviser. Il faut le diviser de manière objective. Et donc, quand on retire l'arrogance, quand on retire la subjectivité, quand on retire le calcul mathématique, etc. derrière, eh bien, on va voir que finalement, ce n'est plus un rocher, c'est des pierres. Après, on prend la pierre, et la pierre, on va la diviser en cailloux, le caillou, on va le diviser en poussière, et là, on marche dessus après. Donc, il faut décomposer. Il faut, en anglais, un puzzle. Bah, passer de la peinture, eh bien, maintenant à la petite pièce du puzzle. Et donc, de cette manière-là, on voit le problème. Qu'est-ce qu'elle fait, une maman, avec son bébé? Va pas lui donner un plat de choucroute, hein, mais elle va mâcher, elle va lui donner la dose qu'il peut digérer. Et donc, nous, dirigeants, on a la responsabilité de prendre les gros problèmes, de les mâcher, de les travailler, de les simplifier et de les donner à nos équipes de la manière la plus digérable possible. C'est ça, en fait, l'idée et la métaphore par rapport à la complexité. Alors que quand on a étudié ou quand on est passé par les problèmes mathématiques les plus complexes, on a tendance à penser que ces mauvais résultats sont forcément dus à un gros problème. Et le gros problème nécessite de grandes solutions. Alors que ce n'est pas forcément ça.
C'est peut-être l'accumulation de plein de petites solutions qui peuvent faire avancer un
problème. Exactement, exactement, parce que le monde est fait comme ça, d'atomes et de molécules, et c'est les notions les plus petites de l'univers.
Ok, tu avais déjà dit aussi le fait qu'il y a une différence entre complexe et compliqué. C'est quoi la différence entre les deux?
Complexe et compliqué, pour moi les choses sont complexes. Pourquoi complexe? Parce que c'est justement une collection, un amalgame de plusieurs choses. Compliqué, là, ça veut dire qu'on est dans l'impasse. Je préfère complexe à compliqué.
Okay.
Donc, complexe, ça veut dire je peux décomplexer, je peux décomposer le rocher.
Je comprends.
Je peux décomplexer. Et c'est pour cela, je préfère toujours utiliser pour un sujet très sérieux, c'est un sujet complexe. Et pour le décomplexer. Et ça, c'est à nous de rendre les problèmes les plus compliqués complexes. Je me rappelle, je parlais avec un directeur régional. Il me dit, ma région, elle est très difficile. La notion de difficulté. Alors que la notion de difficulté, elle est liée à la personne. Elle n'est pas liée à la tâche. Donc, si je demande à un athlète de sauter d'un mètre, il ne va pas me dire que c'est difficile. Si je demande à un bébé de sauter un mètre, ses parents ne vont pas accepter. Donc, en fait, la notion de difficulté est liée à la personne et pas à la tâche. Donc, pour moi, peindre, c'est difficile.
Elle est relative.
Ouais. Exactement. Et donc, ce directeur régional m'a dit « Ah non, mais moi, ma région, elle est extrêmement difficile. » J'ai dit « D'accord, tu viens de me dire de ne pas te nommer directeur général. » Mais non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit « Si, ta région, elle est déjà très difficile. Comment tu veux que je te donne 5 régions ?» Donc, si on n'y arrive pas dans une région. Et donc, en fait, c'est comment décomplexer aussi la mentalité du dirigeant pour dire non, on peut diviser le problème et le traiter. D'ailleurs, je me demande si les chirurgiens, les médecins ne font pas ça tous les jours, de manière tout à fait naturelle. Aller chercher exactement là où il y a le problème, le cerner et le traiter.
Enlever des scénarios. Et... Tu dis souvent... Chaque problème a 2 solutions. Ça veut dire, tu as quoi en tête quand tu dis ça?
Mais c'est que chaque problème a 2 solutions. Il n'y a pas de problème. Donc, je ne suis pas dans la fatalité. Il n'y a pas de problème sans solution. Oui, mais ça, c'est compliqué. Pour moi, il n'y a pas, justement, de problème compliqué.
Insoluble, ok.
Et donc, il faut chercher les solutions. Alors, les solutions ne viendront pas d'elles-mêmes. Et je me rappelle avoir dit ça à mes équipes. Au début de la période du Covid, j'étais en Espagne. Je dis, il me faut des masques. Ils m'ont dit, c'est impossible. C'est pas impossible. C'est sûr qu'il y a 2 solutions. Maintenant, il faut aller les chercher. Ils m'ont dit, oui, mais on a trouvé des masques, mais il faut payer en espèces. Et le monsieur, il veut pas être payé en virement bancaire. Je dis, alors...
Déjà, c'en est une.
Oui, mais le directeur financier... Alors, on n'est plus au rocher. Hein, donc, déjà, j'ai les masques. Mais il faut en espèce. Et les masques, ça pouvait sauver des vies. On n'avait ni vaccin, ni rien du tout. On était dans les 2 premières semaines de la pandémie.
Et donc, effectivement,
après, oui, mais le système financier de la société ne permet pas de payer un fournisseur en espèces. Je dis, mais si on prend l'avocat avec nous et le notaire avec nous pour assister à tout ça et signer que... Ah ben là, peut-être il y a une possibilité. Effectivement, on était la première entreprise à obtenir donc, des masques. D'ailleurs, l'armée espagnole nous a demandé si on pouvait leur fournir quelques masques. Non, fournir quelques masques. Et effectivement, on l'a fait avec beaucoup de bonheur. Sincèrement, j'ai été remercié après par la famille royale espagnole. Et parce qu'on était les premiers à s'approvisionner en masques. Alors que c'était impossible. On est parti du rocher, impossible. Puis c'est compliqué,
sable,
le processus, etc. Et puis finalement, petit à petit... Et on passe effectivement donc du rocher à la poussière et finalement tu as la solution. Donc oui, chaque problème a deux solutions.
Sa solution. Quand on gère entre 85 000 et 100 000 personnes, un PNL de 40 milliards, je trouve qu'il y a deux compétences ou qualités que tu dois avoir. Ça doit être la capacité à déléguer et la capacité à s'entourer. Et j'aimerais bien que tu me parles un peu de ça parce que moi c'est pas forcément mon fort. J'essaye de me soigner, mais comment on fait pour réussir à déléguer ces sujets, à savoir ce qui doit être chez toi, ce qui doit être donné à d'autres. Quels sont tes drivers et ton organisation pour réussir à déléguer ?
Le principe de la subsidiarité. Le principe de la subsidiarité dit « Je ne fais aucune tâche qui peut être faite par quelqu'un d'autre. »
Ok. Et ça, voilà. C'est un truc que tu t'es appliqué ?
Absolument. Et donc, quand tu gères 5 personnes ou 100 000 personnes... Je ne fais rien qui peut être fait par quelqu'un d'autre.
Okay.
D'ailleurs, quand on va dans le bloc opératoire, tu vois qu'il y a une première infirmière qui vient, après il y a un infirmier qui vient, et après il y a quelqu'un, et après le chirurgien étoilé, il vient, il opère, il finit les opérations, après il part, et les autres, ils continuent à coudre, okay. N'est-ce pas ? Donc, je ne fais rien qui peut être fait par quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est hyper important. Et donc, je ne me mêle jamais des affaires de mes N-2, N-3, et ceci, et cela, machin. Donc si je rentre dans le détail, c'est juste pour donner une direction culturelle, mais c'est pas pour contrôler. J'aime pas le flicage. Et je me rappelle une expérience chez Google, je suis allé passer quelques jours chez Google, aux États-Unis, près de Silicon Valley, et je parlais avec la directrice des ressources humaines de Google. J'ai dit, c'est vrai que chez vous, les notes de frais ne sont pas signées par le manager ? Elle m'a dit, oui. Chez nous, les notes de frais sont signées par la personne qui déclare avoir dépensé de l'argent pour la société, mais elle n'est pas signée,
pas
la
contrôlée.
Note de frais, par le manager. J'ai dit, mais et s'il y a quelqu'un qui triche ou... Elle m'a dit, écoutez, chez nous, tous ces gens-là, il n'y en a pas un qui est responsable d'un projet de moins de 30 millions de dollars. Je leur fais confiance sur des projets de 30 millions de dollars. Et je ne leur fais pas confiance sur un ticket de taxi. Donc...
On relativise les
choses. Donc voilà. Donc en fait, c'est tout cela, la subsidiarité, la simplification. Ça, c'est extrêmement important. Donc la subsidiarité, c'est un principe. La simplification est un deuxième principe. Et le troisième, c'est la confiance. Je pense que la confiance, ça nous permet de gagner énormément de temps dans une entreprise. Et c'est un avantage compétitif par rapport à d'autres.
Et sur les qualités recherchées pour les gens qui t'accompagnent et qui font partie de ta garde rapprochée, comment tu sélectionnes cette équipe ? Et d'ailleurs, dans des grands groupes comme ça, est-ce qu'on choisit sa garde rapprochée ou on nous l'impose ? Et comment, si tu dois choisir ton équipe, est-ce que tu choisis des qualités que tu n'as pas, des personnalités que tu n'as pas ? Ou comment est-ce que tu construis ta garde rapprochée ?
Dans les grands groupes, on choisit sa garde rapprochée. J'ai le défaut, je l'ai toujours eu, de... rester avec les mêmes équipes que je trouve en arrivant. Et donc, j'ai eu des défauts parce que ça m'a été dit à plusieurs reprises comme étant un défaut. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage
de faire table rase, de changer.
Virer tout le monde, voilà. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est une question de courage, une question de philosophie pour moi. J'ai jamais cru qu'en virant tout le monde et remplaçant tout le monde par d'autres personnes qui vont aussi, eux-mêmes, à leur niveau, virer tout le monde et remplacer tout le monde, en fait, c'est une chaise musicale qui risque d'être interminable pendant 6 mois, alors que la société a des objectifs immédiats à apporter. On va plus passer du temps à parler de l'organigramme, de qui fait quoi, qui est viré, qui est là, qui est... Non. Au lieu de se focaliser sur vraiment le résultat. Donc moi, j'ai jamais perdu 6 mois sur ces affaires-là. Je pense que pendant mes 10 ans de directeur général, j'ai jamais passé plus de 5 minutes sur les organigrammes les premiers 6 mois de ma prise de poste. Mais pas plus de 5 minutes. D'ailleurs, à chaque fois on me remettait les organigrammes, je les regardais à peine parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher la flamme au fond de chacun. Et ce qui s'est avéré, c'est que 80% des équipes que je prenais, dont je ne me séparais pas, étaient parfaitement capables d'apprendre, d'évoluer, de se remettre en question et de poursuivre la route après mon départ.
Et comment on fait pour fédérer, animer une équipe avec plusieurs dizaines de milliers de personnes, 80, 100 000 personnes? Toi, tu as réussi à le faire, à être présent, à être reconnu et à fédérer ces gens-là, sans pour autant que ce soit ton équipe principale avec laquelle tu bosses tous les jours. Mais quels sont les éléments que tu as utilisés pour essayer de... qui t'ont permis de créer une équipe? Et une notion d'équipe à 81 personnes, c'est pas évident.
Le mot responsable vient du verbe répondre.
Je t'écoute. Okay.
Répondre. Et donc, j'ai donné mon adresse email sur le site web.
Ah, tu l'as dit tout à l'heure.
Et sur tous les outils de réseaux sociaux internes de la société, disant à n'importe quel salarié qui souhaitait me parler d'un problème ou d'une idée, etc., qui pouvait le faire.
Accessible tout de suite.
Absolument. Alors, pas seulement à moi, et je demande à l'ensemble de mes collaborateurs, dirigeants, de faire de même. Parce que moi, je suis dans la subsidiarité, je ne veux pas faire le travail. Mais si il y a un boucher qui a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre et que je sois le seul, finalement, à l'écouter, je vais être ce seul dirigeant à l'écouter. Et donc, cette proximité, effectivement, permet de fédérer. L'objectivité, c'est-à-dire quand une organisation syndicale me fait une demande, si la demande, elle est légitime, je ne vais pas la refuter parce qu'elle émane d'une organisation syndicale. Je vais leur dire merci, et je sais dire merci à une organisation syndicale, et je sais la réaliser. Une fois, on m'a donné un courrier dans un magasin que les chasses d'eau étaient en panne dans le magasin. Donc, au lieu de passer du temps à dire non parce que ça émane d'une organisation syndicale, je dis merci beaucoup, je ne l'aurais pas su si vous ne me l'aviez pas dit. Vous savez quoi? C'est une responsabilité managériale. Je me suis adressé à mon directeur de magasin, je dis ça, on le sait ou pas? Donc, il faut absolument le régler. Il n'y a même pas besoin qu'on ne le remonte. Maintenant qu'on ne l'est remonté, il faut dire merci. Donc, l'objectivité et l'humilité d'accepter les choses légitimes. Et troisièmement, l'exemplarité. Je pense que l'exemplarité, c'est une caractéristique managériale indispensable.
Bien. Il y a une philosophie de vie, un peu, enfin une philosophie de vie ouais, ou d'être qui se dégage de toi. C'est en partie, je crois, dû à une approche que tu as, une session de méditation que tu fais tous les jours. Tu peux m'en dire, de cette session de méditation, par quoi tu passes et qu'est-ce que tu te dis?
Alors, la méditation, ça fait partie de plusieurs, en fait, c'est juste pour réussir à conserver, à préserver mon énergie. J'ai besoin de faire mon sport, j'ai besoin de bien me nourrir, j'ai besoin de mes moments de plaisir donc de méditation. Cette méditation qui me permet de me mettre en accord avec moi-même, d'accepter ce qui est acceptable et de me pousser vers ce que je suis, vers ce que je dois faire. Donc ce sont quelques minutes de silence intérieur et de parole à moi-même. Et donc une remise en question. Cette remise en question, tout à l'heure je parlais d'arrogance, je parlais etc. Cette remise en question qui me permet de dire, en fait, plus tu réussis, en fait, plus tu t'éloignes. Et donc, c'est juste une
sorte... Tu t'éloignes de toi-même, tu veux dire?
En fait, tu peux t'éloigner de toi-même. Tu peux t'éloigner de toi-même parce que tu vas tomber dans ce qui est matérialiste, dans ce qui n'est pas l'essence de la chose. Et donc, j'ai trouvé pour moi, grâce à des livres écrits par des leaders, effectivement, qui trouvent dans le sommeil, la qualité du sommeil, un moyen de préserver leur énergie, mais aussi la qualité de la méditation. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Un moment de silence, un moment de solitude, un moment de...
Avec toi-même.
Avec toi-même, exactement. Moi, je le fais sans musique, sans rien, mais c'est quelque chose qui me soulage, qui m'apporte du bonheur et qui me permet de passer ma journée... à distribuer de l'énergie à tous ceux que je croise, mais aussi à ne pas m'énerver pour un oui ou un non.
Avec l'exemple des exemples, j'en ai pas mal pour te connaître un peu sur le fait que tu prends avec philosophie ce qui t'arrive en te disant, mais si ça se trouve, si ça s'était pas passé, j'aurais peut-être eu des complications derrière, donc c'est très bien si cet événement arrive. Donc t'es toujours ce type aussi relax et aussi détendu, où ça t'arrive de t'énerver et de fulminer contre des sujets.
Alors, ça m'arrive de m'énerver, oui, au fond de moi-même,
d'accord,
mais je m'en porte pas.
Okay.
Donc, je ne perds jamais contrôle. Jamais, enfin, voilà. Donc, j'ai toujours le contrôle, mais m'énerver, il y a quelque chose qui peut m'énerver, par exemple, c'est l'injustice. L'injustice, quand c'est j'ai la responsabilité, quand j'ai pas la responsabilité, je sais encaisser, je dis voilà, c'est comme ça, le monde est comme ça, continue ton chemin, fais ce que tu peux faire. Mais quand c'est moi le responsable et que je vis une scène injuste, là, effectivement, mon débit augmente, et je deviens plus précis. Et plus sharp. Et tout mon courage managérial, en fait, devient visible. Et effectivement, plus la personne est gradée, plus je vais parler sur un ton pas outrageux, mais où je me fais comprendre. Okay. Et très direct. Très direct. J'ai une personne, une manager dans les équipes qui m'avait écrit, elle m'a dit, voilà, je me suis fait insulter par mon patron. Et qui m'a traité de ça et de ça. Bon, les termes qu'il lui a utilisés, ce ne sont pas des termes que je peux accepter. J'ai dit, vous êtes dans quel magasin? Il m'a dit, je ne suis pas dans un magasin, je suis dans un entrepôt. Dans telle ville, c'est Trans-en-Provence, à 1 heure de Marseille. J'ai dit, écoutez, je viens ce samedi. Et je suis allé samedi, j'ai vu le manager. Je dis, pourquoi vous dites ça? Il m'a dit, oui, je suis désolé. Je dis, est-ce que vous aimeriez qu'on vous le dise à vous? Non. Ben alors, vous ne le dites pas. Il m'a dit, mais vous êtes directeur général, vous vous êtes déplacé pour ça. J'ai dit, c'est une salariée, je la traite comme si elle était l'unique salariée de mon entreprise. Donc, à partir de là, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas convaincu qu'il faut la respecter, ne serait-ce que par le processus que je vous impose, il faut la respecter.
Oui, il y a une valeur d'exemple énorme.
Et donc, à partir de là, cet exemple-là est propagé un peu partout. Ils disent, oh là, il y a un cadre qu'il ne faut pas dépasser.
C'est un sujet que tu avais voulu absolument
voilà.
Maîtriser.
Et donc là, effectivement, je m'emporte de manière à... Ça me donne de l'énergie pour prendre les moyens de transport qu'il faut et me déplacer un samedi pour dire ça, non. Voilà.
Okay.
Donc ça me permet effectivement de m'exprimer quand je... Voilà, tu appelles ça énervé. Je ne sais pas si c'est énervé, mais quand je suis face à un sujet extrêmement important et qui me tient à cœur.
Et du calme et du sang-froid, il en a fallu, je pense, enfin, tu t'évoquais la période tout à l'heure du Covid. Si je remets un peu dans le contexte les années 2000, 2021, 2022, tu es en Espagne à ce moment-là, pays un des plus touchés, et toi, tu es aux commandes d'un groupe de distrib qui est un des groupes les plus exposés dans un des pays les plus exposés. Et je crois que cette période-là, au dire, moi j'habite en Espagne depuis peu, donc j'entends parler de Carrefour qui a un rôle important dans la région. Visiblement, cette période-là, elle a été très bien gérée par Carrefour. Et avec le recul, quels ont été les points qui effectivement permettent de dire que oui, cette période a été bien gérée, sachant qu'on était tous devant une inconnue énorme. Mais il y a des décisions, sûrement une attitude qui a dû être la bonne dès le départ. Et tu arrives à la repérer ces éléments qui ont été des bonnes.
Je pense que c'est une valeur plus une chance. La valeur, c'est l'humain. Donc, c'est-à-dire comment je peux servir ces Espagnols. Donc, moi, j'étais patron de l'Espagne au moment de du premier confinement, donc en Espagne. Et effectivement, on l'a tellement bien géré qu'au mois de mai de l'année 2020, j'ai été reçu par la famille royale, le roi, Sa Majesté et la reine, pour nous dire merci. D'ailleurs, ils m'ont invité. J'ai dit, est-ce que je peux venir avec des personnes de mon équipe? Donc, j'ai invité une hôtesse de caisse, j'ai invité un directeur de magasin et le directeur régional. Donc, on était 4, effectivement, à y aller. Ils ont apprécié, parce qu'ils voulaient me remercier. Je dis non, il faut remercier les représentants de toute l'équipe donc de la société en Espagne, y compris l'hôtesse de caisse, qui quand même a une équipe qui a fait un travail formidable à recevoir les clients tous les jours. Ça a été bien géré, je pense, grâce effectivement à l'humain. Je me rappelle la première semaine du confinement, on a eu un manque de personnel dans les magasins, où les gens ils ne voulaient plus venir travailler. Et donc, on avait le stock, on avait la marchandise, mais on n'arrivait plus à mettre en rayon. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé remplir le rayon moi-même en portant le gilet de l'employé qui remplit le rayon. Et je demandais à ce qu'on me prenne en vidéo. Et là, je me suis adressé à toutes les mamans et tous les parents de mes salariés, les plus jeunes. Et j'ai dit, écoutez, aujourd'hui, si je vous demande que vos enfants viennent travailler, c'est pas pour la marge de l'entreprise, voilà les produits qu'on vend. C'est pas les produits les plus margés. Mais c'est pour permettre à la société espagnole de continuer. Parce que sinon, on ferme. Les autres, ils ferment. Qui va garantir que cette grand-mère, ce grand-père, qu'il puisse avoir de la marchandise en livraison e-commerce, etc. Donc là, on est devant une cause nationale. Je vous demande, s'il vous plaît, de traiter cette question comme une cause nationale et solidaire. Effectivement, le lendemain, tout le monde est venu travailler parce qu'ils ont vu que tout le monde, enfin, que moi et mes équipes rapprochées, on était là. Aussi une chance parce que j'ai une expérience à Taïwan. Et à Taïwan, donc c'est un pays qui avait connu les pandémies. Et entre 2015 et 2018, j'ai appris à porter un masque quand j'avais un rhume. J'ai appris à m'éloigner quand je me sentais pas bien. Et donc, c'est une culture locale où tout le monde s'appliquait ses règles d'hygiène, à se laver les mains, à utiliser le gel, etc. Donc, en février, même avant le premier confinement, quand on a commencé à parler du Covid, etc., j'ai demandé à mon directeur commercial, j'ai dit, trouve-moi des masques. Il m'a dit, mais les masques en Europe, c'est pas ça. J'ai dit, trouve-moi des masques. Et donc, effectivement, cette expérience que j'avais eue à Taïwan m'a aidé à gagner peut-être un quart d'heure d'avance par rapport au reste de la grande distribution.
Bon. Le courage managérial, c'est un sujet qu'on a pas mal évoqué. Il en a fallu du courage quand, il y a quelques semaines, tu annonces à ton management Carrefour que tu t'en vas, que tu quittes la maison après 28 ans de bons et loyaux services. Comment on en arrive à prendre une décision comme ça?
C'est mon sentiment et mon besoin immense de continuer à apprendre et à évoluer. Donc, dans mon ancienne société, j'ai toujours appris et j'ai toujours évolué. Alors, je n'ai jamais sauté de classe. J'ai jamais eu l'accélérateur de quelqu'un qui m'a fait gagner 3 places, 3 grades d'un coup. Non. Et à chaque grade, on m'a demandé d'aller dans un pays et faire 2 ou 3 postes à la suite. Et à chaque fois, j'ai accepté, mais à chaque fois, j'apprenais. Et à chaque fois, j'évoluais. J'arrive à un poste qui est le patron de Carrefour France, qui est le poste le plus important du groupe. On a un patron qui est brillantissime. Et donc, j'ai géré Carrefour France pendant 3 ans. Les résultats de Carrefour France en 3 ans ont changé de visage et de couleur. Les équipes ne sont pas les mêmes en termes de capacité, de formation, de mentalité. Donc, j'estime que Carrefour France a le droit d'avoir un second souffle et j'estime, moi, que j'ai le droit à continuer mon ascension, mon apprentissage. Et je l'ai trouvé à travers l'offre de Morrison, que quand je suis allé les voir au Royaume-Uni, j'ai voulu analyser la culture et les valeurs. On est parfaitement alignés. Les processus, j'ai beaucoup de choses que je peux apporter. Sur les outils et la modernité, j'ai dit ça, c'est mon domaine. Et donc, les problèmes dont ils m'ont parlé, c'est mon domaine d'expertise. 100 000, 110 000 salariés qui ont besoin de mon aide, on coche toutes les cases de ce que je sais faire, de ce que j'aime faire. Et en plus, c'est une progression et en même temps, un apprentissage. Un apprentissage parce que là, je vais travailler avec des actionnaires, un board, et être numéro un. Donc voilà, c'est plus de responsabilités, plus de risques, plus de solitude. Donc là, pour moi, pour me former, c'est hyper important. Et je pense que c'est le bon âge pour le faire. Si j'attends 6 ans, 8 ans, je pense que ça sera un peu trop tard. Et donc, je pense que c'est maintenant. Et je crois que cette boîte est la boîte qui me correspond maintenant. Et donc, c'est pour cela, j'en ai parlé avec mon ancienne société de la manière la plus transparente possible et la manière la plus posée possible. Et c'était plus une conversation presque amicale avec mon ancien patron. Et on a convenu avec énormément d'entente sur le processus donc à suivre.
Début du nouveau, de nouvelle page, du nouveau chapitre, début novembre.
Début novembre.
2023. Eh ben canon, hâte de voir ce que la suite va nous réserver. Merci pour ces insights. Quelques questions rapides pour toi, avant de conclure cet échange. Quelle est la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui ?
L'école des leaders.
L'école des leaders. Est-ce que tu as eu du temps récemment, plus de temps que d'habitude ? Est-ce qu'il y a des choses, parce que tu es entre deux jobs, ce qui t'est rarement arrivé depuis 28 ans, est-ce que tu as été amené à faire des choses que tu n'imaginais pas ou ne pouvais pas faire avant? Et si oui, ça ressemble à quoi les choses que tu as pu faire parce que tu avais justement du temps?
Je n'ai pas plus de temps qu'avant, parce D'accord. que je suis quelqu'un qui priorise et qui planifie sa journée, donc j'essaye quand même de remplir ma journée. Je ne sais pas, moi, me bronzer pendant 4 heures, ça, c'est pas mon truc. Par contre, effectivement, j'ai fait des choses que je ne faisais pas avant. Mon fils, il m'a dit: papa, aujourd'hui je vais chez le médecin pour une consultation. J'ai dit: je t'emmène. Il me regarde avec surpris. Et puis moi aussi j'étais surpris. J'ai dit: bah oui, c'est vrai. Je dis: oui, je t'emmène. Donc voilà. Donc je le conduis, on arrive chez le médecin. Et c'est vrai, à un moment donné, il me dit: papa, je vais parler au médecin. Ah d'accord, donc je quitte la salle. Parce que moi, j'avais l'habitude de l'emmener quand il était gamin, où je pouvais encore rester. Voilà. Donc, c'est ce type d'expérience pour moi.
Le quotidien simple.
Le quotidien hyper simple, de rencontrer des gens, revoir des amis, etc. Alors, toujours, le planning est extrêmement chargé, mais avec des épisodes très différents. Et je peux dire, en fait, que cette coupure... C'était juste une coupure nécessaire et un moment de bonheur. Un moment de bonheur parce que pendant cette période, tu fais des rencontres, tu réfléchis, tu te reposes, tu te poses, tu lis, tu fais plein de choses. Et donc, moi qui appréhendais ces périodes de coupure, parce que la valeur du travail pour moi est une valeur extrêmement importante, eh bien, se permettre aussi des fois cette prise de recul. Franchement, si c'était à refaire, je le referais.
Bon, et l'équilibre vie perso-vie pro, quand on a le genre de carrière que tu as, c'est quelque chose de... C'est une réalité ou c'est plutôt de l'ordre du rêve?
C'est quelque chose qu'il faut travailler, il faut obtenir. Donc, si tu demandes maintenant à mes enfants, ils vont te dire: oui, il n'y a pas de problème, c'est équilibré, etc. Mais je pense parce qu'ils ont grandi dans ça. Je pense que s'ils se comparaient avec d'autres... contexte, d'autres familles, je pense qu'ils trouveraient peut-être la réponse est différente. En tout cas, moi je dis, c'est jamais assez. C'est ce que je me dis, je suis dans la remise en question permanente, je dis, c'est jamais assez. Maintenant, j'essaie de faire au mieux et j'essaie de couper, de prendre toutes mes vacances. J'ai toujours pris mes 5 semaines de vacances à la perfection. J'ai toujours su couper, partir avec les enfants. Et d'ailleurs, pendant cette dernière période, je suis parti avec mon fils une semaine en vacances, en tête à tête, et ça nous a fait un bien fou parce que on en avait besoin. Et donc je pense que je peux pas dire que j'ai atteint l'équilibre, mais c'est quelque chose que je veux viser tous les jours.
Il y a beaucoup d'activités qu'on a citées dans ton parcours, beaucoup qu'on n'a pas citées, parce que par exemple, tu es officier de réserve de l'armée de l'air, membre de Adler. Tu es engagé auprès d'un certain nombre de problématiques liées à la parité, dont on n'a absolument pas parlé, et pourtant c'est un sujet important. Tu es père de famille, tu as un boulot dont on a parlé. Ça implique d'avoir une certaine... Et pourtant, on a le même agenda et même nombre d'heures dans une journée, mais visiblement, on les remplit pas tous de la même manière. Comment tu drives ton agenda, ton organisation? Est-ce qu'il y a une routine qui te permet de tout faire rentrer? Ou une secrète sauce que tu pourrais avoir qui te permet de tout faire rentrer, là où les autres ont du mal à tout faire rentrer?
Je pars du principe le matin que je ne pourrais pas tout faire rentrer. Donc, il faut faire des choix. Mon engagement auprès de l'armée de l'air, c'est un choix personnel de m'engager auprès de la France, auprès de mon pays d'adoption qui m'a tout donné. Tout ce que je suis en train de décrire, je l'ai appris en France. C'est ce pays qui m'a fait confiance, ce pays qui m'a accueilli, qui m'a donné la nationalité, qui m'a donné une maison, qui m'a donné une vie, une formation, une confiance. Tout n'a pas toujours été très brillant, mais je pense que le modèle français est un modèle auquel je dois toute ma gratitude et ma reconnaissance. Et donc, l'une des manières de rendre à ma patrie un morceau de ce qu'elle m'a donné, c'est de m'engager auprès de l'armée de l'air en tant que colonel de la réserve et de travailler avec essentiellement le général Alvarez, qui est le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, justement pour voir comment on peut améliorer la productivité, avoir une comparaison, un benchmark entre le monde militaire et le monde privé, etc., avec des amendements, des ajustements qui peuvent être intéressants et dont je suis extrêmement fier. Je contribue aussi au rayonnement de l'armée de l'air à travers les réseaux sociaux, à travers mes interventions, etc. Et donc ça, c'est pour moi une partie de mon engagement vis-à-vis de la France, mais n'est pas l'unique engagement. L'autre engagement, c'est la parité homme-femme, parce que je crois que les femmes doivent avoir leur place dans les postes à responsabilité dans la société et doivent bénéficier d'un programme de formation, au même titre que les hommes qui suivent un programme de formation qui leur permet effectivement d'évoluer et d'avoir les capacités à devenir patron. Je pense que aussi la parité, c'est quelque chose de très important. Et moi, quand je commence ma journée le matin, je dis qu'est-ce qui est urgent, important et simple, je le priorise. Et tout ce qui n'est pas urgent, qui n'est pas important et qui n'est pas simple, je dépriorise. Donc voilà, je garde urgent, important, simple et je dépriorise le reste. Quand j'aurai fini tout ce qui est urgent, important et simple, après, je regarde le reste. Maintenant, c'est très rare qu'à la fin d'une journée, que j'ai fini tout ce qui est urgent, important et simple.
Okay.
Donc, urgent, important et complexe, je le mets en deux.
Heureusement, il y a une nouvelle journée qui commence le lendemain qui va permettre de faire la suite. Est-ce qu'il y a une société qui t'inspire particulièrement dans son approche managériale et dans ses valeurs managériales ? Une autre société ?
Je pense que moi j'ai vécu dans cette culture. J'ai été formé au Canada, aux États-Unis, en Suisse. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir comparer les cultures entre elles. Et je pense que chaque société a sa propre culture et son ADN. Moi, je pense que l'ADN de chaque société est la bonne ADN. Et il faut vraiment rester basé sur l'ADN. Il faut faire évoluer la culture. Mais il ne faut pas essayer de changer l'ADN, parce que sinon, après, on perd la quintessence, on perd l'existence même de la société. Maintenant, effectivement, je suis fasciné par la société, la culture que Steve Jobs a apportée donc sur la créativité chez Apple. Le customer orientation chez Apple, ça, c'est extrêmement important. Ou chez Netflix, quand on dit le no rules rule. Donc, il y a la règle de non-règle. Donc, si tu veux prendre 4 semaines de vacances, tu prends 4 semaines de vacances. Si tu veux prendre 4 jours, tu prends 4 jours. Bon, ça, on est dans une autre, dans une autre loi, un autre pays, etc. Mais c'est quelque chose que de donner la confiance à chaque collaborateur. Ça, c'est quelque chose qui me fascine. Le processus de Toyota au Japon, c'est quelque chose qui me fascine. Le processus, comment le processus accouplé à une culture d'appropriation, ça apporte de bons résultats. Mais aussi dans notre société française. Moi, quand je regarde la société française dans le sens large du terme, je vois des champions du monde, je vois de belles équipes, je vois qu'on est bon dans plusieurs domaines, plusieurs secteurs. Et c'est vrai, tout cela, ça me fascine. Ce que j'essaie de faire, c'est de prendre le meilleur de chacune de ces cultures et de l'apporter, si je peux, sans changer l'ADN de ma société, l'apporter à mon entreprise et à ma petite taille, ma petite équipe.
Dernière question pour moi. Est-ce qu'il y a des dirigeants ou un dirigeant qui, selon toi, est assez inspirant sur le territoire francophone et qui pourrait être un bon invité pour ce podcast ? Tu me recommanderais qui ?
Je te recommanderais naturellement plusieurs, mais d'abord Alexandre Bompard.
Oui.
Donc tu peux l'appeler de ma part et je suis sûr qu'il viendra.
Tu penses ? Bon.
Tu lui dis,
petit challenge.
Tu lui dis c'est Rami qui m'a donné le nom.
Parfait. Eh ben, merci Rami pour le temps que tu nous as accordé et pour tous ces partages d'expériences. Hâte de voir ce que la suite va nous réserver pour toi. Et bon vent de l'autre côté de la Manche. Et à bientôt.
Merci infiniment.
Salut.
Merci.
Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à suivre le compte Innovation Leader sur LinkedIn et Instagram, mais pensez aussi à vous abonner à notre newsletter sur innovationleaders.live pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve dans 2 semaines. À très vite.